Vous écoutez
RMC. RMC, l'afterfoot.
Jérôme Sillon.
L'after avec Walid Acharchour, avec Elton Mokolo. On a parlé du Racing Club de Lens. Dans un instant, les Girondins de Bordeaux. On va passer un coup de fil à David Gluzman parce qu'il y a des bonnes nouvelles en provenance des Girondins. Et puis l'actualité du Mercato, l'actualité hors Mercato aussi. Encore plein de choses à vous raconter. Mais c'est l'heure de la vie tranchée d'Elton Mokolo.
C'est un match contre... compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps et qui peut profiter.
Compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps. Alors, laisse-moi comprendre l'expression.
Le tic-tac,
tic-tac. Ah, tic-tac, 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 quoi, qui peut.
Ah, ouais, ouais, c'est d'accord. Ça.
Vas-y, Elton, tu veux nous parler ce soir du LOSC.
À l'époque, je parlais d'Inter Fluminense. Et bah, d'ailleurs, Fluminense gagne le match. Non, pourquoi je voulais parler de Lille? Parce que moi, ça m'intéresse de décrypter notamment la réalité sportive de la saison 2027 de ces jeunes Lillois. Parce que je pense que Lille a été, de manière honorifique, l'un des grands gagnants de cette Coupe du Monde. Et il y a eu un effet Coupe du Monde. Pourquoi? Parce que je pense que le joueur Lillois a été mis en avant par rapport à sa jeunesse. Je veux dire, Nathan Goy, pour moi, a été dans le top 3 des meilleurs joueurs belges sur la Coupe du Monde. Boadi a été exposé sur le premier match contre le Brésil, même si à la fin ça a été plus dur parce que c'était l'enchaînement des matchs, enchaînement à forte pression. À 18 ans, c'est quand même compliqué. Moukao a été quand même mis en avant avec la République démocratique du Congo, que ce soit contre le Portugal, que ce soit aussi contre l'Angleterre, tout du moins jusqu'à sa sortie. Il y a même eu un Fernandes Pardo qui a eu du temps de jeu. Et moi, j'ai envie de voir cet effet Coupe du Monde qui puisse booster la jeunesse lilloise. Pourquoi? Parce que sur la saison 2026-2027, ils sont amenés à beaucoup plus grandir. À partir du moment où il y a la Ligue 1, et aussi le retour en Ligue des Champions. Le retour en Ligue des Champions, où ils vont être un peu plus attendus, parce qu'ils ont eu des performances qui ont été marquantes en Coupe du Monde. Je veux dire, la performance de Goy contre l'Espagne, championne du monde, elle a été appréciée, elle a été remarquée, quand bien même il a pris un carton rouge. Boadi, on l'a évoqué, même s'il y a des enjeux de transfert que l'on va évoquer. Moukao, qui a été mis en avant, et Fernandes Pardo. Tout ça, ce sont des joueurs qui, par rapport à la politique sportive du LOSC, et là, pour le coup, on peut leur donner un énorme coup de chapeau. Un coup de chapeau. C'est un club qui met en avant ces jeunes et qui leur donne de la responsabilité, de la continuité avec des choix qui sont forts. Je veux dire, Goy, il y avait Chancel Bemba qui était sur le banc, il aurait pu être un remplaçant, il a été titulaire. Fernandes Pardo, l'hiver dernier, quand Igaman se pète, on aurait pu prendre un attaquant d'expérience, on lui a donné de la confiance, on lui a donné de la continuité et il l'a rendu sur le terrain. Et moi, c'est ce qui m'intéresse notamment, de voir ces jeunes mettre à contribution tout ce qui s'est passé sur le capital expérience, le capital match à forte pression sur une Coupe du Monde, et le remettre pour Lille sur une saison 2026-2027 où là t'as un terrain d'exposition qui est fabuleux et qui est magnifique. C'est la Ligue des Champions, comme t'as pu le faire saison 2024-2025 où t'es allé en huitième de finale contre le Borussia Dortmund. Et c'est en ça que moi je me dis que ces joueurs vont pouvoir aider David Ancelotti. Et même tactiquement, j'ai envie de voir si David Ancelotti va se servir de ce qui s'est passé en sélection. Goy, ça me paraît compliqué parce que c'est un défenseur central, mais est-ce qu'il va s'appuyer sur un Boadi pointe basse dans un milieu en losange? Est-ce qu'il va s'appuyer notamment sur un Moukao qui a été recentré avec la sélection? Ou est-ce qu'il va s'appuyer sur ce qu'a fait Bruno Genesio avec Moukao davantage sur ce rôle d'ailier droit mais qui revient à l'intérieur? Fernandes Pardo, est-ce qu'il va continuer dans ce poste de numéro 9? Tout ça, c'est des enjeux qui m'intéressent énormément sur la saison 2026-2027 qui, pour moi, doit être la saison où ces joueurs doivent taper du poing sur la table en se disant que on peut être les joueurs qui peuvent s'inscrire dans la dynamique de Nicolas Pépé, de Mike Maignan, de Raphaël Léao, de Lenny Yoro, de Bafodé Diakité, des joueurs qui sont partis en laissant d'énormes sommes dans les caisses, même si Jonathan David est parti.
Mais moi je comprends pas l'avis d'Elton.
Comment ça tu comprends pas?
Et en fait Fernandes Pardo, il est en train de sonder le marché, Boadi il va partir à Manchester City.
Ah mais aujourd'hui ils sont pas partis.
Moukao, ce que tu dis sur Moukao, c'est à la marge en fait avec le RDC, il a pas changé de dimension non plus. On va quand même se calmer. J'ai plus d'images de Moukao en Ligue 1 sur la fin de saison dans son rôle que sur la Coupe du monde. N'Goy, oui, je valide sur N'Goy, etc. Il a été très costaud, il a été une vraie révélation sur cette Coupe du monde, mais sinon Boadi, si demain Manchester City met 100 millions d'euros et ils disent on n'a pas envie de le prêter une année de plus, et il part.
Ah mais aujourd'hui théoriquement par le joueur
Espardo, il a qu'une envie, c'est d'aller ailleurs. Donc il y a un moment
je savais pas pour Fernandes Espardo, parce que Ancelotti veut en faire son attaquant de pointe numéro 1.
Si aujourd'hui il y a une possibilité pour qu'il sorte et qu'il a un marché, il restera pas à Lille. Enfin lui il est pas dans cette volonté là. Maintenant peut-être qu'il va rester, de toute façon l'étang c'est une porte de prison, il est très très dur en affaire. Mais si demain Fernandez Pardo veut partir et qu'on lui laisse pas la possibilité, faut voir ce qui s'est passé l'année dernière avec Fernandez Pardo hein, sur la mentalité. Il y a eu du grabuge avec Genesio, notamment sur son poste, sur les matchs qu'il faisait. Il a été très bon sur le sprint final quand il a été repositionné, mais sinon sur la globalité de la saison, ça a été très frustrant de suivre Fernandez Pardo par rapport à la qualité qu'il avait. Donc voilà, moi je trouve que sur l'avis du soir, je trouve qu'il y a quand même deux cas sur quatre où on n'est pas sûr du tout de les avoir.
Je pense qu'il y a juste Boadi, et encore, tu parlais de Fernandez Pardo à juste titre, et t'as quand même une belle carotte, c'est être titulaire sur la Ligue des Champions.
Demain à la place de Fernandez Pardo, je reste à Lille, il y a pas de souci là-dessus. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, si demain il y a 30, 35, 40 sur ce profil-là en Angleterre, est-ce que Olivier Létang va le laisser? Moi, je pensais que t'allais plus intégrer un Igaman par exemple qui revient de blessure.
Igaman, je l'ai pas intégré justement par rapport à sa blessure.
Oui, voilà, mais qui va être revanchard. Peut-être qu'il va sûrement avoir des minutes cette saison, et au final les 10 millions d'euros, on a eu un échantillon mais on l'a pas assez vu. Après moi la question sur Lille, c'est David Ancelotti. Moi je suis très sceptique, les échos que j'en ai dans un rôle différent où il est adjoint à Lille, où c'est quelqu'un qui dans le management par rapport à Ancelotti, il y avait le good cops bad cops. Et lui, c'était pas le good cops.
Avec son papa Carlo.
Ah oui,
c'était celui qui allait
bien évidemment dans la tactique, dans tout ce qui était chiant, quoi, en fait. Alors que Carlo Ancelotti avait cette stature, cette posture, ce envol d'oiseau pour avoir ce côté humain, et c'est ce qui faisait la force en fait du duo. Mais là, quand tu passes de l'autre côté, et que on l'a vu à Botafogo, on avait reçu des spécialistes brésiliens, ils étaient beaucoup plus dithyrambiques sur Philippe Luiz que sur David Ancelotti.
Ouais, j'ai partagé mes inquiétudes sur David Ancelotti, mais le contexte Botafogo, c'est un contexte explosif.
Je suis pas là en train de dire qu'il va se vautrer. Je dis juste que il y a un gros point d'interrogation sur David Ancelotti. Comment il va gérer les jeunes? Comment il va transmettre un petit peu? Moi, j'ai un peu peur de, tu vois, du syndrome un peu Thierry Henry. Même si la comparaison n'est pas bonne par rapport aux joueurs de foot, mais en fait, j'ai été adjoint de grands clubs. J'étais adjoint de grands joueurs.
En gros, j'ai pas besoin de vous dire certains trucs.
Ou sinon, de pas essayer de calquer avec des joueurs de moins bon niveau, et de ne pas avoir le tact, de ne pas avoir la sensibilité, la pédagogie pour accompagner des joueurs moins bons. Et comment ils vont l'accepter? Surtout qu'en plus, s'il fait le dur avec certains joueurs, l'année dernière, Genesio, c'est pas du tout le même management. Ou surtout, ils ont fait des gros résultats avec lui. Ils ont fait troisième. Ils sont passés par des moments compliqués, par des moments durs.
Ils ont eu des bas.
Où ils ont réussi. Ils ont réussi à aller chercher un résultat dingue. Donc moi là-dessus, j'attends de voir. C'est beau. Même si Lille a montré que, surtout Létang. Et c'est un président tellement fort aujourd'hui que c'est lui en fait qui impacte la direction sportive. C'est lui qui.
Ce sera lui le bad cop en fait.
Exactement. Donc peut-être qu'ils vont se réadapter.
Mais là où tu as raison, c'est
attention
que
là-dessus.
Quand tu vois Philippe Luiz qui débarque à Monaco et tu vois Dino Topmüller à Lens, comme on en parlait juste à l'instant, et que David Ancelotti est le choix numéro 1 à Lens, à Lille, pardon, c'est vrai que c'est un peu plus étonnant
parce que c'est ça. Moi, j'imaginais Thiago Motta par exemple. À Lille.
On en a parlé d'ailleurs.
Oui, voilà. J'imaginais, en plus, dans l'affiliation qu'il y avait avec Olivier Létang au Paris Saint-Germain. Après, encore une fois, moi, je laisserai sa chance au produit et je jugerai ce que je vois. Mais là-dessus, j'ai un doute par rapport à.
Mais pour recentrer, par rapport à des personnes
qui ont connu Carlo Ancelotti et son.
Mais pour recentrer sur les joueurs, parce que je vais quand même te vendre ma paire de babouches, notamment sur le fait qu'ils peuvent grandir davantage dans cette équipe.
On va parler de Boadi parce qu'on va vous faire écouter Olivier Létang qu'on a parlé aujourd'hui. Mais j'aimerais que tu me parles de Muko notamment, ou Mukao, c'est comme ça qu'on prononce ça, exactement. Oui. C'est quoi son meilleur poste aujourd'hui? Parce que moi, je le préfère. Enfin, je trouve qu'il est un peu engoncé sur un côté.
Exactement.
Tu vois, je le préfère plus dans l'axe, dans un rôle de 8, capable de jouer box-to-box.
Moi, je vais être très attentif parce qu'on en a parlé. Je vais être très attentif au dispositif tactique de David Ancelotti et par rapport à l'équation Mukao sur le fait, est-ce que tu vas le recentrer pour pouvoir mettre en avant ses qualités de box-to-box, un joueur qui peut aider, ou est-ce que tu vas continuer de le mettre sur un côté? Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Sur Fernandez Pardo, moi, j'ai envie de voir réalité statistique de ce joueur. Est-ce qu'il peut être un attaquant à 15 buts en en Ligue 1. Clairement, parce qu'en fait, il a revendiqué le fait d'être un numéro 9. A raison, parce qu'il a contribué à la qualification du LOSC en Ligue des Champions de manière directe. Moi, maintenant, j'ai envie de le voir sur une saison complète. Parce que moi, j'ai envie de dire, hey, Fernandes Pardo, les clubs de Première Ligue, si tu fais 15 buts et que tu mets 5-6 buts en Ligue des Champions, ils seront quand même là.
Non, mais il a besoin d'une saison complète à
exactement,
ce poste-là. En fait, c'est trop tôt pour lui de partir.
Dans ton avis, en quoi il a changé de dimension avec la Belgique?
Non, mais moi, j'ai évoqué en nom, mais je l'ai évoqué à la fin. J'ai dit malgré ces 41 minutes. Mais moi, ce que j'ai envie de voir, c'est maintenant ce que ça peut donner sur toute une saison, notamment sur le fait de tenir le lead en attaque du LOSC Ligue des Champions. Ouais. Et ça, c'est des choses qui m'intéressent. Boadi, il faudra voir parce que c'est un cas qui est un peu plus compliqué. Dans un rôle où il va être beaucoup plus exposé parce que maintenant c'est le gars qui a brillé contre le Brésil, comment il va réagir, ça c'est des enjeux qui m'intéressent.
Il y a très peu de pistes de recrues du côté de Lille, non?
Je voulais d'abord vous faire écouter le Lilleton, on en parle après sur Walid, parce que moi ce qui m'inquiète c'est plus la qualité de l'effectif du LOSC au regard de ce qui attend le club cette saison. Écoutons d'abord ce qu'a dit aujourd'hui Olivier Lilleton, le président du LOSC, sur Ayoub Boadi. Ouverture, pas ouverture, va partir, va pas partir,
c'est encore très
on
fort,
écoute.
Il y a pas un club et c'est assez surprenant effectivement comment certaines rumeurs peuvent prendre de l'ampleur en disant des échanges avec un club qui joue en bleu clair. C'est pas vrai. Il y a effectivement un intérêt de très très grands clubs. Je l'avais dit, très peu effectivement peuvent aujourd'hui s'offrir à Ayoub, mais pas plus d'évolution que ça. Il y a toujours des intérêts, il y a toujours des offres de ces grands clubs, mais pour l'instant la situation est toujours la même et je pensais qu'Ayoub allait rester chez nous. Je suis toujours sur cette position-là. Aujourd'hui, la seule vérité, c'est que c'est un joueur du LOSC à 100%. Il faut être réaliste, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres, effectivement, pour lesquels ce serait une erreur, un, de ne pas anticiper, et deux, de ne pas réaliser un transfert. Maintenant, dans un transfert, il y a trois parties, et donc il y a les deux clubs et il y a le joueur.
Bon, on l'a connu quand même plus ferme pour s'opposer au départ d'un joueur.
Oui, moi, il tire égal.
En gros, il partira, c'est juste, faut mettre l'argent.
Moi, il tire dans la position... dans une position exceptionnelle, ils sont en Ligue des Champions, ils ont bien fait le boulot. Je sais pas si on se rend compte, mais vendre à un joueur 100 millions d'euros en Ligue 1,
ce serait inédit.
Mais pour moi, c'est un trophée. Ah mais pour moi, dans le bilan d'un président...
Sans aller jusqu'à trophée.
Mais pour moi, dans le bilan d'un président, vendre un joueur...
C'est record.
100 millions d'euros. Un joueur que t'as quand même fait éclore dans ton centre de formation, que t'as mis en avant assez rapidement avec une gestion parfaite. Je sais pas si on se rend compte du truc en fait. C'est un truc de ma boule.
Non, mais on en parlait avec Jérôme juste avant l'émission. Il y a eu la vente de Neymar à Al Hilal. Et là, on te parle d'autre chose.
Mais là, ce
serait le record, on est d'accord?
Pour un joueur qui sort de la Ligue 1, parce que tu as eu Mbappé, Monaco, PSG, mais pour un joueur qui sort de Ligue 1, ce serait une folie.
Pour un joueur
qui a 18 ans.
En fait, dans ton bilan pour un président, etc., tu peux en raconter ce que tu veux. Tu montes, tu descends, c'est un trophée.
En Ligue 1 aujourd'hui, ce serait évidemment du jamais vu.
Après, moi, j'ai du mal avec trophée.
Oui, mais tu as du mal parce que c'est pas un trophée.
Mais je te dis juste qu'en termes d'importance,
bien évidemment que le supporter, il n'est pas ému, il va pas. Oui. Et demain ils vont pas aller sur la place du centre-ville en disant super on a vendu. Mais pour un président c'est ça. En fait c'est.
Tu connais pas encore la géographie lilloise toi.
Non.
La grande place à Lille. La grande place. Faut aller manger des gaufres chez Mertz.
Ah ouais. Ah d'accord. Ok. Moi je suis un grand fan de gaufres. Mais
c'est les gaufres flamandes, tu sais, un petit peu fourrés là.
Ah oui. On ira goûter. Mais ce sera. Et après la deuxième étape, c'est bien évidemment qu'est-ce que tu fais de ces 100 millions d'euros. Enfin, parce que le recrutement, moi, je suis d'accord avec Jérôme.
Ah mais attention, moi.
Pour l'instant, le recrutement, c'est Tanguy Kouassi qui est arrivé libre de Séville. Moi, là aussi, c'est un pari.
Oui.
Önal Bazar, donc le Turc qui est né aux Pays-Bas, qui arrive de Nekhnimeg,
qui a annoncé, c'est
pas mal, ouais.
C'est pas mal, ouais.
Et puis Serdanovic qui arrive du Servette, qui est un défenseur qui est arrivé pour 3 millions. C'est quand même léger pour l'instant le recrutement. Mais bon, on imagine que l'OGSA a plein de choses derrière qui arrivent.
Moi, je vais un peu défendre l'effectif lillois. Il y a des forces en présence. Je veux dire, il y a des joueurs qui ont été recrutés l'année dernière.
Il y a des joueurs expérimentés qui sont partis. Bemba, Mandy, Meunier, tout est taulier de la défense qui a porté, même s'ils ne jouaient pas tous les matchs.
Alors, on va faire du cas par cas. Moi, je crois
Mandy,
encore.
Mandy, pour moi, c'est le meilleur défenseur de Lille l'année dernière.
Ça, je suis d'accord. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais moi, par exemple, tu vois, sur le poste de latéral droit, j'ai envie de croire à Thiago Santos qui te fait une saison.
Oui, mais Paris.
Hein?
C'est un pari.
Oui, c'est un pari, c'est mais ce que je veux dire, de la même manière.
Ah, par rapport à sa situation physique.
Non, mais souvenons-nous ce qu'on disait de Thomas Meunier quand il arrive libre du côté de Lille. On disait que c'était un pari aussi. Donc,
Bentaleb, il n'est pas sur le départ, Bentaleb.
Bentaleb, il a prolongé.
Non, il a prolongé.
Ah,
c'est bon.
Parce qu'en fait, il te reste Bentaleb, Benjamin André, Olivier Giroud. Au niveau expérience, mais toi, tu as des joueurs, par exemple, qui sont arrivés l'été dernier, comme Sarraoui, comme Brolm.
Exactement.
C'est des joueurs qui doivent montrer autre chose. Un Félix Correa aussi qui a brillé par intermittence.
Sarraoui l'année d'avant, il vient l'année d'avant.
Oui, t'as raison. Ouais. C'est des joueurs qui doivent aussi maintenant confirmer et prendre plus de place dans l'effectif.
Exactement. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai évoqué. Ça va être le recrutement du LOSC, le recrutement interne, faire grandir des jeunes joueurs qui vont avoir plus de place, plus d'opportunités.
Est-ce qu'ils auront une meilleure équipe que quand ils ont été en Ligue des Champions il y a deux ans?
Il y a deux ans, c'était.
Une équipe.
Après, on juge à posteriori parce que t'as des gars, ils sont allés toucher des gros clubs.
Ouais, d'accord, mais ils avaient une équipe.
Je suis d'accord avec toi.
Florian est avec nous au 32-16. Salut Florian, supporter du LOSC.
Bonsoir.
Bonsoir Florian.
Florian, toi, t'es plutôt optimiste. Explique-nous pourquoi.
Comme je disais, il y a quelques années, on avait eu Jocelyn Gourvennec comme entraîneur, et quand j'ai vu l'annonce de cet entraîneur-là, j'avoue que j'étais pas très super confiant, parce qu'on connaissait la réputation du parcours de l'entraîneur, et au final, au vu du parcours en Ligue des Champions et en championnat, je me dis qu'on s'en est super bien sorti. Et donc pour moi, avec l'arrivée d'Ancelotti au club, on connaît la notoriété de son père, ce qu'il a accompli, donc pour moi, j'ai aucun doute qu'il va accomplir de grandes choses au LOSC.
Il avait plus de références quand même, Gourvennec, quand il arrive, dis-moi.
Oui, mais disons qu'il avait une réputation, on va dire... pas super glorieuse, du moins au niveau des supporters du LOSC, quand l'annonce a été faite que ce serait Gourvennec, on n'était pas super optimiste, mais au final, il s'en est très bien sorti, et donc, pour moi, j'ai la même vision du coup pour David Ancelotti. Pour moi,
Il s'en est très bien sorti, c'est le moins bon classement du LOSC ces cinq dernières années. Le LOSC, c'est quand même extraordinaire.
Tu le sors de la phase de groupe de Ligue des Champions quand même.
Ça se termine très mal avec une défaite à 3 catastrophique.
Ça, c'est la saison d'après avec Fonseca.
Non,
Gourvennec, c'est différent.
Ah bon?
Ils font pas dixième, mais ils font pas. Ils font huit, je crois.
Il
n'y a pas un match à 3, ils perdent là-bas.
C'est 2022-2023, ils vont en Conference League.
Sous Fonseca. Je suis béton. Il y a une défaite avec Gourvennec, etc.
J'ai pris mon ballon, j'ai tiré le pénalty, c'est un contre-pied.
Il y a une défaite avec Gourvennec avec
j'ai pris le ballon.
Fin de saison,
je m'en souviens très bien.
Fin de saison avec Renato Sanchez, etc. Fin de saison, les temps, il sort, etc. C'est une catastrophe. Et là, Fonseca arrive l'année d'après.
37ème journée.
Je te parie un resto toute la semaine s'il faut. Je suis béton.
On a besoin de toi.
Je suis béton. Défaite à trois, catastrophique.
Après, c'est comme le PSG, on peut pas être parfait toute l'année.
Florian, tu viens de Gourvennec.
Alors qu'en Ligue 1, c'était catastrophique en Ligue 1. Gourvennec, il commence avec la victoire contre le PSG en Trophée des Champions, avec c'est le but de Cheka, et ça se termine très mal. Comme l'a dit Jérôme, par contre, en Ligue des Champions, tu termines premier dans la poule de Salzbourg, Séville et Wolfsburg.
Et Wolfsburg, tu gagnes 3-1 là-bas avec Ikoné,
ouais.
Bon, on va essayer de vérifier tout ça.
Non, mais. Et Florian, t'as pas besoin de vérifier.
Vous parlez tous en même temps.
Vas-y, un dernier mot, Florian.
Moi, je souhaite une très bonne saison au LOSC. Qu'on fasse le meilleur parcours possible. Et puis, voilà. Un gros bisou à Lucas du Standard, qui a été cast member, comme moi je le suis actuellement.
Très bien. Eh bien, écoute, merci Florian. Bonne soirée et bonne saison. Avec le LOSC cette saison, et donc il finit bien dixième. Par contre, j'ai pas encore la confirmation du résultat du match.
Non, je suis sûr.
Laissez-moi un petit peu de temps. Tu peux pas tout faire.
T'as bien vu qu'il a pas parié le resto.
Je te parie le resto.
Bien sûr, t'as bien compris.
Ouais. Allez, dans un instant, on parle des Girondins de Bordeaux. L'actu hors mercato avec un décès aujourd'hui, celui de Franco Baresi. On va en dire un mot, bien sûr. Et puis, l'actu mercato à venir. À tout de suite.